Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, édition du 23 novembre 2017. C'est Marie Lalande qui vous parle. Avec moi, en régie d'abord, Mathieu Tessier.
Merci. Bravo Mathieu!
Bonjour Mathieu.
Bon
et
matin.
L'équipe du jeudi matin, Monique Quiroy.
Bonjour Marie.
Bonjour Monique.
Bonjour Yvan.
Et Yvan Deslauriers.
Bonjour à vous deux. À vous trois, en fait.
Alors, chers collaborateurs, qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui?
Je vais commencer. Moi, je vous parle de deux personnes. Un fait de l'haltérophilie, l'autre enseigne les arts martiaux. Un a 84 ans, l'autre, il fait ça auprès des autistes.
Ah, oh, c'est intéressant.
C'est tout.
Sujet intéressant.
Alors, moi, je parle du corps.
Du corps?
Oui. D'abord, je vais vous parler du cœur et de notre cerveau. Alors, est-ce qu'ils ne font que s'atrophier au fil des ans?
On espère que non.
Ah, vous verrez.
Oui,
vous lirez deux petits articles sur chacun des organes. Mm-hmm. En fait, c'est en suivi. J'avais fait un article, vous vous rappellerez, sur le squelette,
oui.
Sur les os, qui gardait en mémoire beaucoup d'informations. Oui. Alors, c'est dans la même foulée.
Est-ce que vous vous souvenez que dans le Reader's Digest, il y avait la série...
George.
Oui. Non.
Le cerveau de George.
Ah
le...
oui? Ah, oui. Ben écoute, il faudrait ressortir tout ça. Et le deuxième article qui traite de sucre. Alors, le sucre est-il juste calorifique ou est-il toxique? Alors, les chercheurs ne s'entendent pas. Nécessairement.
Alors? Le cycliste en moi a déjà une réponse.
Alors, on verra si on sera en lutte.
D'accord.
Ouais. Et moi, je vais vous parler des tout-petits dans un premier temps, puisque les tout-petits sont à l'honneur cette semaine. Et ensuite, je vous présente 5 conseils aux parents pour enrichir la lecture aux enfants de 3 à 5 ans. Alors, c'est parti!
Allons-y!
Alors, Yvan, d'abord, est-ce que tu nous parles du monsieur de 84 ans, d'abord?
Oui.
Oui.
Oui, je vais parler du monsieur de 84 ans,
oui.
Qui est champion d'haltérophilie.
Ah bon? À 84 ans?
À 84 ans. C'est dans un article de Véronique Champagne dans le Journal de Montréal du 15 novembre. Il s'appelle Marcel Perron, il a 84 ans. Il est maître, en guillemets, là, c'est pas juste pour... Le glorifier, il est vraiment, il a une catégorie maître, haltérophile, et il se dédie à sa pratique depuis plus de 50 ans. Le week-end dernier à Montréal, il a participé au championnat canadien des maîtres en haltérophilie. Le doyen du sport ne s'y contentera pas d'une médaille d'or. D'ailleurs, je peux vous le dire, je ne fais pas un scoop, il a gagné sa médaille d'or.
Ah oui!
Alors, il nous dit, « Je n'ai pas beaucoup de compétition chez les 80 ans et plus. » Il ne s'entraîne pas assez fort pour me battre, dit Marcel Perron. Alors, il dit, après les championnats canadiens, je vais aller en Gaspésie m'improviser un petit camp d'entraînement avec un club local. Et, il n'est pas question pour ce dernier d'en profiter pour se bercer en regardant le fleuve. À 84 ans, Marcel Perron s'entraîne toujours une dizaine d'heures par semaine en visant la performance.
Quand même!
Alors, pour ceux qui connaissent cet endroit-là, dont moi, on se rencontre au local d'haltérophilie du Pro Gym dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.
Oui, sur la rue Hochelaga.
C'est énorme, cet endroit-là. Il y peaufine son art, la plupart du temps seul, l'haltérophilie d'abord. De l'autre côté de la vitre, une foule variée s'entraîne sur les diverses machines spécialisées du centre d'entraînement. Beaucoup connaissent Marcel Perron à force de côtoyer l'octogénaire au gym où il déjeune et dîne quelques fois par semaine. Une fois, un jeune m'a demandé combien je benchais.
Je benchais?
Oui, benchais, ça, c'est quand tu lèves une barre, mais quand tu es couché, quand tu es couché
oui,
sur
oui.
le dos.
D'accord.
Alors, Marcel Perron lui a répondu que lui, il dort la nuit et il ne va pas au gym pour aller se coucher. Alors, tout l'entraînement de Marcel Perron tourne autour des deux mouvements de l'haltérophilie, c'est-à-dire l'épaulé jeté, quand tu soulèves le poids vers ton épaule puis tu le lèves au-dessus de ta tête, et l'arraché, ou quand tu pars de terre puis tu lèves directement au-dessus de ta tête.
Oh.
La grosseur des bras et de la poitrine, ça ne compte pas. Je ne suis pas un monsieur muscle. Je veux juste soulever la charge la plus pesante possible, explique l'homme de 84 ans, je vous le dis. Au championnat canadien, il vise 80 kilos à l'épaulé jeté et 60 kilos à l'arraché. Ça, par exemple, je n'ai pas été capable de trouver les résultats. Fait que je ne sais pas. Plus jeune, j'étais capable du double. Donc, il était capable de soulever 160 kilos et à l'épaulé jeté et 120 à l'arraché. Mais depuis 40 ans, il a perdu 50 % de ses capacités.
Mm-hmm. Oh, c'est énorme.
Puis là, il nous dit, dans 40 ans, il ne me restera plus grand-chose.
Dans 40 ans. D'accord.
Une bonne espérance de vie.
Oui, celui qui a 10 records canadiens au compteur. Marcel Perron a fait partie de l'équipe nationale de l'haltérophilie entre 1971 et 1975. Pas très longtemps quand même. Puis, j'ai tout lâché parce qu'il y avait toutefois des meilleurs que moi. Parce qu'il y avait toujours des meilleurs que moi, explique celui qui ne se qualifie pas de bon technicien dans ce sport pourtant très technique. J'ai couru des marathons pendant 7 ans avant de découvrir qu'il y avait des compétitions pour les athlètes Masters, raconte Marcel Perron. Ça s'est avéré une véritable révélation pour l'haltérophile, sur qui le temps semble avoir moins d'emprise que chez ses concurrents. À moins d'une contre-performance étonnante, ce qui n'est pas arrivé, Marcel Perron est pratiquement toujours assuré de la médaille d'or en compétition dans sa catégorie d'âge. Ce que je vise surtout, c'est le Grand Master, un honneur qui prend en compte les charges soulevées à l'arraché et à l'épaulé jeté, pondérées par un coefficient considérant le poids corporel de l'athlète et son âge.
Mmh.
Le coefficient s'appelle la formule Sinclair-Meltzer-Faber. Établit le grand maître, c'est-à-dire celui qui lève la plus lourde charge compte tenu de son poids et de son âge. Alors, Marcel Perron est le Grand Master mondial depuis 4 ans, selon cette formule.
Bravo.
Outre son dévouement et ses nombreuses années d'expérience, Marcel Perron s'explique mal son succès. « Je prends des douches très froides après les entraînements et je consomme beaucoup de miel de sarrasin. »
Ah bon?
Et met-il comme hypothèse. C'est un athlète russe qui m'a parlé du miel. Il me racontait leurs entraînements un peu fous. Ils se garochent des poids. J'ai jamais voulu essayer ça. Mais j'ai adopté le miel, nous raconte toujours M. Perron, tout sourire. Il précise immédiatement que les soupers santé préparés par sa colocataire doivent aussi y être pour quelque chose. Et la suite? « Je ne veux rien savoir de la retraite », nous dit cet athlète de 84 ans. Une compétition à la fois. Les championnats canadiens d'abord. L'été prochain se dérouleront à Gaspé les championnats panaméricains maîtres d'haltérophilie. Peut-être alors, Marcel Perron se bercera-t-il en regardant le fleuve entre deux épreuves. Alors, c'était l'histoire de notre ami Marcel Perron, haltérophile, grand maître à 84 ans.
Alors, Monique,
oui,
cerveau et le cœur.
C'est ça. Alors, je vais commencer par le cerveau.
Mm-hmm.
Alors, sous la plume d'Aude Rambaud pour Science et vie du mois d'août, le cerveau, une arme contre son propre déclin. Alors, pour le cerveau, tout se construit avant 25 ans. Après, c'est le déclin. Voilà un dogme scientifique enseigné pendant des décennies dans les écoles de médecine.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Pourtant, il est faux.
Je suis tellement heureux.
Ça nous réjouit.
C'est ça, car le cerveau a une arme secrète. Il parvient à se régénérer. Et ce qui intrigue le plus les chercheurs, c'est que certaines zones semblent garder leur pouvoir de régénération tout au long de la vie, tandis que d'autres le perdent à l'âge adulte. Ce que l'on sait désormais, avec certitude, c'est que le cerveau adulte possède au moins 2 réserves de neurones immatures. Donc, c'est des pouponnières de neurones dans lesquelles grandissent les futurs remplaçants des neurones fatigués.
Des bébés neurones.
Des bébés neurones.
Une garderie voir de neurones.
Une garderie de neurones. Ben, en fait, plus petit que ça, des pouponnières, chers amis, ils sont pas encore à la garderie.
Alors, on parle de tout petit.
On parle de ti-ti-ti. Oui. Alors, voir de nouveaux neurones supplémentaires. Découverte, c'est quand même assez tardif. Au milieu des années 2000, la première est située dans l'hippocampe, centre de régulation des émotions et de formation des souvenirs. La deuxième pouponnière, découverte en 2011, se cache dans le striatum. Ça, c'est la région impliquée dans le système de récompense et à l'origine du plaisir. Hein, on en avait déjà parlé par rapport à l'amour, n'est-ce pas? Qui était pas mal commandé si on voulait. Vous n'aviez pas aimé ça.
Non.
Et c'est un animal qui finalement n'est pas réputé pour son intelligence, le canari, qui a mis les chercheurs sur la piste.
Je savais pas ça.
Alors, cet oiseau produit un chant différent à chaque printemps. En étudiant cette curiosité de la nature, des scientifiques ont découvert qu'à chaque automne, l'animal perdait des neurones et qu'il en acquérait de nouveaux au printemps, qui lui permettent d'élaborer un nouveau chant pour séduire une femelle. Alors, ce fut un vrai déclic pour les scientifiques qui se mirent alors en quête d'un tel mécanisme chez notre espèce. On en sait un peu plus sur le fonctionnement de nos pouponnières. Une étude a, par exemple, compté que l'hippocampe produit jusqu'à 700 nouveaux neurones par jour. Cette capacité de régénération contribuerait donc à l'acquisition de nouvelles compétences intellectuelles à l'âge adulte. Mais pourquoi, par ailleurs, il n'y en a pas plus? Alors, pourquoi c'est limité à quelques centaines de neurones par jour, alors que les ravages du temps et des éléments extérieurs peuvent être sans pitié pour notre fragile cerveau? Alors, les énigmes sont encore nombreuses. Mais ce qui apparaît clairement, en revanche, c'est que fabriquer de nouveaux neurones à l'âge adulte n'est pas un dû et que ce processus nécessite certaines conditions. La sédentarité, le surpoids, la passivité, le stress, l'isolement social ou encore le manque de sommeil freinent ce phénomène. Alors, placer des rongeurs à ces différentes conditions, on observe une diminution de volume de leur hippocampe. Ce qui signifie que la naissance de nouveaux neurones est ralentie, voire bloquée. Alors, notre pouponnière, là, petits bébés, ils ne sortent pas. Et à l'inverse, les placer dans des contextes de relations sociales, d'apprentissage, d'exercice physique quotidien, relance la machine. Alors, en attendant de percer tous les mystères de notre fascinant cerveau, rien ne nous empêche déjà de tout faire pour relancer la machine de sa régénération. Alors, chers amis, ça veut dire saine santé. Saine vie, habitude de vie.
Puis des gens autour.
C'est ça, exactement. Ne pas être seul, c'est très important. Alors, voilà. Ça, c'était pour le cerveau. Maintenant, allons-y vers le cœur. Le cœur, toujours sous la plume d'Aude Rambon pour Science et Vie du mois d'août 2017, il repousserait comme la queue du lézard.
Ça, c'est drôle, ça.
C'est drôle, hein? Alors, il est l'organe vital par excellence. Si notre cœur ne bat pas, bye-bye la vie. Celui qui cache une horloge de haute précision, chargée de propulser le sang et d'assurer en continu sa circulation en tout point de notre corps, est aussi perçu comme un organe fragile, soumis aux accidents et aux ravages du temps qui menacent de le faire dérailler. Le cœur, c'est pas le foie. Le foie, on le sait, hein, se régénère très facilement. Aussi fort soit-il, il n'a pas en lui le pouvoir de se régénérer prodigieusement. C'est en tout cas ce que l'on pouvait penser jusqu'à ce que des scientifiques observent l'impensable. Un cœur humain qui semble se reconstituer. Totalement inattendu, cette régénération a été rapportée en 2015.
C'est récent.
C'est très récent. Par l'équipe d'un chercheur autrichien, Bernhard Hübner, de l'Institut de biotechnologie à Vienne. Alors, ils ont examiné, sous toutes les coutures, le cas extrêmement rare d'un nouveau-né dont le cœur avait été sévèrement endommagé par un infarctus du myocarde à la naissance. À la surprise générale, quelques mois après être né, l'enfant avait totalement et spontanément récupéré ses fonctions cardiaques. Amputé d'une large partie, le cœur aurait donc repoussé, un peu comme le fait la queue du lézard. Bon, de nombreux examens sont toujours nécessaires, seront nécessaires notamment pour comprendre ce processus inédit chez le nouveau-né. Mais bien sûr, le cœur des adultes intrigue aussi, oui, n'est-ce pas, hein? Et semble réserver de bonnes surprises. Alors on peut dire qu'à partir de la cinquantaine, notre cœur est quasiment entièrement renouvelé par rapport à celui qui nous a été donné à la naissance. Car en réalité, les cellules musculaires cardiaques se renouvellent tout au long de la vie. Lentement, mais sûrement. Cette découverte, nous la devons aux études menées sur les témoins d'essais nucléaires pendant la guerre froide. Alors, en analysant, après leur décès, les doses de carbone 14 incorporées dans leurs cellules cardiaques, des chercheurs ont constaté que seule une petite partie d'entre elles était encore imprégnée de doses radioactives. Le cœur de ces adultes était en fait composé de vieilles, mais aussi de nouvelles cellules. Plusieurs travaux par la suite indiquent que ce seraient les cellules du muscle cardiaque qui se multiplient à un rythme très lent sans avoir besoin de cellules souches. Le taux de renouvellement serait de 1 à 2 % par an. Reste à découvrir les mécanismes qui permettent ce phénomène et inversement ceux qui l'inhibent. Mais le cœur semble prêt à rejoindre la liste des organes qui se régénèrent. Même si en termes de vitesse, il reste très très loin derrière, par exemple, l'épiderme ou même le foie, il reste loin derrière l'épiderme, mais qui nous il fait quand même peau neuve, tout doucement, mais sûrement.
C'est fascinant.
Alors, voilà, c'était le cerveau et le cœur qui sont des éléments, des organes qui sont bien vivants et qui donc se régénèrent.
Et dans les deux cas, on trouve ça dans Science et Vie.
On trouve ça dans Science et Vie du mois d'août 2017 sous la plume d'Aude Ramban.
Merci.
J'ai brisé un cœur comme un pot de fleurs, je l'ai échappé, pas même ramassé. J'ai brisé un cœur, pas n'importe lequel, le seul qui battait dans mes deux oreilles. J'ai brisé un cœur comme la dernière fois que la grande peur s'était levée en moi. Mais cette fois-ci, je vais m'en occuper.
Comme un petit oiseau, allez le briser.
Je vais le tenir entre mes mains d'enfant,
lui injecter de l'amour.
Cette fois.
C'était Ariane Moffat et sa chanson « Briser un cœur ».
Merci Mathieu.
Un plaisir.
Alors, vous en avez peut-être entendu parler, ou pas, du 19 au 25 novembre 2017, c'est la deuxième édition de la Grande Semaine des Tout-Petits. Alors, j'allais aux sources, je vous lis ce que j'ai trouvé sur la page web de la Grande Semaine des Tout-Petits. On peut trouver ça sur le site facile, on tape grandesemaine.com, okay. C'est tout. Les Tout-Petits du Québec sont l'avenir de notre société, ils sont aussi notre présent. Depuis plus de 60 ans, le 20 novembre marque la Journée mondiale de l'enfance. C'est pour la célébrer que se tient la Grande Semaine des Tout-Petits, une occasion de communiquer et de susciter le dialogue sur l'état de bien-être et de développement des Tout-Petits, de mettre en lumière des initiatives locales, régionales et nationales qui soutiennent la petite enfance et de mobiliser l'ensemble de la société. Lors de la première édition de la Grande Semaine des Tout-Petits, l'an dernier, en 2016, plus de 350 activités ont été réalisées aux quatre coins du Québec. Et cette année, on vise plus grand encore pour nos Tout-Petits. La Grande Semaine des Tout-Petits est fière de présenter sa porte-parole officielle, l'animatrice Annie Soleil Proto. Sur le site, on peut l'entendre, il y a une petite vidéo là, où on peut l'entendre parler chaleureusement de son engagement et je vous lis ses propres mots. Nos tout-petits, on ne les entend pas toujours, mais c'est essentiel de leur donner une voix parce que ce qu'on vit dans la petite enfance nous suit pour le reste de notre vie. Je n'ai pas d'enfant, c'est Annie Soleil Proto qui parle, mais je crois fermement qu'on a tous un rôle à jouer dans la vie des tout-petits qui nous entourent. Quand je vois mes nièces, quand je vois les enfants de mes amis, quand je vois mes petits voisins, la magie de l'enfance me saute aux yeux et aussi la fragilité qui vient avec. Je viens d'un quartier défavorisé, Hochelaga-Maisonneuve. J'y suis née, j'y ai grandi et j'y habite toujours. C'est mon monde et je l'aime profondément. Mais la réalité, et ça m'attriste terriblement, c'est qu'on ne naît pas tous égaux. Pourtant, ce n'est pas parce qu'on vient d'un milieu plus précaire qu'on n'a pas le droit d'avoir des rêves à réaliser. Un tout petit sur quatre est vulnérable lorsqu'il entre en maternelle. Ça m'a bouleversée d'apprendre qu'un enfant de milieu défavorisé risque de connaître 600 mots de moins qu'un enfant de milieu favorisé à l'âge de 3 ans. Des gestes très simples peuvent faire une immense différence. Ensemble, faisons en sorte que nos tout-petits puissent tous s'accomplir, d'où qu'ils viennent, qui qu'ils soient. Et c'est donc Annie Soleil Proto, qui est la porte-parole de la Grande Semaine des Tout-Petits, qui nous parlait. Sur le site, on peut trouver trois liens cliquables. Le premier, pour inscrire des activités. Si on a organisé des activités dans le cadre de la Grande Semaine des Tout-Petits, on peut les inscrire dans le calendrier. Le second, celui qui va intéresser davantage les parents, la liste des activités. Donc, il y a de nombreuses activités qui sont organisées entre le 19 et le 25 novembre et on peut consulter cette liste. Et le dernier lien, c'est celui des biblios. Situés au cœur des villes et des villages, les bibliothèques publiques offrent un point d'ancrage naturel pour la Grande Semaine des Tout-Petits dans la communauté. Les Tout-Petits, c'est 7 % de la population et c'est 100 % de notre avenir. Alors, il faut donner aux Tout-Petits la grande place qui leur revient. Alors, je vous rappelle, l'adresse du site, c'est grandesemaineensemble.com. Et dans la même foulée, l'Observatoire des Tout-Petits a publié cette semaine le document « Comment se portent les Tout-Petits québécois ». C'est un portrait qui a été fait en 2017 qui propose de faire un arrêt sur image le temps de décrire la santé et le développement des enfants âgés de 0 à 5 ans, ce qu'on appelle les tout-petits, au Québec. Il fait état des conditions dans lesquelles ils viennent au monde, de leur état de santé physique, leur état de santé mentale et de leur développement. On peut voir la situation région par région et on peut télécharger le portrait en entier. Alors, on va chercher ça sur tout, trait d'union, petit avec un S, .org, O-R-G. Voilà.
Il reste deux jours, en fait. Il reste. Ben, aujourd'hui, c'est une journée de plus.
Jusqu'au 25. Demain, effectivement. Samedi. Oui, voilà.
Oui, ben, un petit peu pour continuer ce dont tu parlais, j'ai une brève qui parle que les bébés devraient bouger plus.
Oui.
De nouvelles recommandations ont été publiées concernant la quantité d'activités physiques que les enfants, les bambins et même les bébés devraient faire chaque jour. Les enfants âgés de 1 à 4 ans devraient faire au moins 3 heures d'activité physique réparties pendant la journée, incluant au moins une heure de jeu énergétique, comme la course ou la danse, pour les 3 à 4 ans. Les bébés de moins de 12 mois font l'objet de recommandations pour la première fois, au moins 30 minutes de temps passé sur le ventre, réparties pendant la journée. Le nouveau rapport a été rédigé par différents experts, dont la Société canadienne de physiologie de l'exercice, des spécialistes de l'obésité du Centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario à Ottawa et le groupe sans but lucratif Participation.
Intéressant. Est-ce qu'on a le temps pour une petite brève, Monique?
Oui, tout à fait. Alors, lecture et longévité. Oui. Alors, parlant d'un retour aux sources, des chercheurs de l'Université Yale ont séparé en 3 groupes 12 ans de données provenant de 3635 adultes âgés de plus de 50 ans. Ceux qui ne lisent pas de livres, ceux qui lisent environ 3h30 par semaine et ceux qui lisent plus de 3h30. Les chercheurs ont découvert que les deux groupes de lecteurs avaient 20% moins de risque de mourir prématurément que les non-lecteurs et qu'ils vivaient en moyenne 23 mois de plus. Les capacités cognitives des lecteurs, comme la capacité de se souvenir et de compter à l'envers, étaient également plus fortes. Les rats de bibliothèque,
lisez,
réjouissez-vous.
Alors, restez avec nous pour la suite de l'émission. Les Voix de service magazine se poursuit après la pause. À tout de suite. Bonjour neige.
l'hiver nous travaille au noir. Quand le froid nous vandalise, tu dis colons malades pour le restant de nos.
Fait noir de bonheur, c'était Avec Podcast.
Avec Podcast.
Voilà.
C'est le nom. Alors, de Avec Podcast, on passe au combat d'une vie. Yvan.
Oui. Et je vous parle d'un monsieur qui s'appelle Mohamed Gelassi. J'espère que je prononce bien son nom. Qui nous raconte le combat d'une vie. Il a vaincu les plus forts pour gagner des championnats de karaté. Mais c'est auprès des jeunes handicapés et autistes que Mohamed Gelassi exerce son art, donnant confiance et courage aux enfants et aux parents. Je vous parle un petit peu de son parcours. En fait, je vous lis le parcours que Régent Bourdeau de la Presse nous a présenté le 19 novembre dernier. L'autisme est un trouble de communication et de socialisation, dit Mohamed Gelassi. Je me sentais exactement comme ça quand j'ai immigré. Il est arrivé au Québec il y a 12 ans de la Tunisie et il s'est adapté aux valeurs de cette nouvelle société et aux accents différents du français. J'ai rencontré plein de bonnes personnes qui m'ont aidé, dit l'homme de 40 ans. Aujourd'hui, je redonne ce que j'ai reçu. Dans cet esprit, il a combiné sa formation en intervention éducative et ses talents de karatéka pour fonder l'Association de développement des arts martiaux adaptés, l'ADAMA, en 2012. L'ADAMA a une mission bien spéciale. Cette association, à but non lucratif, vise l'inclusion des jeunes ayant des besoins particuliers en leur offrant des cours de karaté adaptés. Le KARATSA, je ne sais pas si on prononce KARATSA ou KARATSA, et l'Handicarapé. Je recommence. Lundi, karaté.
C'est un test.
Oui, oui. C'est presque plus drôle la façon dont je l'ai prononcé la première fois.
Oui, c'est ça.
Donc,
le
karaté SA et lundi karaté.
Voilà.
Ces cours s'adressent principalement aux jeunes autistes, mais aussi aux personnes ayant un handicap intellectuel comme la trisomie 21 et à ceux ayant une mobilité réduite, dont les personnes en fauteuil roulant. Mes élèves n'ont pas de limites, précise M. Gelassi. Ils ont des défis à relever, mais on est tous égaux et on ne doit pas juger les autres par rapport à une situation qu'ils n'ont pas choisie. Le professeur d'arts martiaux fait en sorte que ses élèves fassent les exercices à leur façon. Comme dans la vie, rappelle-t-il, il n'y a pas qu'une seule manière de faire les choses. Chacun s'adapte selon ses besoins, ses forces et ses faiblesses. Si la personne ne peut tenir sur ses jambes, elle fait les mouvements du kata avec le haut du corps. Si elle ne peut utiliser son bras droit, elle fait de la visualisation comme si elle le pouvait. C'est un entraînement qui exige beaucoup de volonté et de détermination. Ces rencontres sportives sont aussi très bénéfiques aux jeunes autistes sur le plan des interactions et des échanges. C'est à 17 ans que Mohamed Gelassi a acquis ses techniques de karaté dans le dojo d'un quartier populaire en banlieue de Tunis. Il l'a fait pour se défendre et pour faire respecter ses trois sœurs. Mais au fil des ans, il a pris du galon jusqu'à remporter des championnats en Tunisie. L'instructeur tient sa force de caractère, son sens de la justice et son désir d'aider les autres de sa mère, Rafia. Et sa soif de liberté et son goût du dépassement l'ont amené à quitter la Tunisie, où il était journaliste pigiste. Au Québec, il travaille dans le secteur de l'éducation. Son implication bénévole lui a valu des récompenses. L'an dernier, il a remporté le prix du bénévolat en loisirs et en sport Dollard Morin du gouvernement du Québec. Hier, à Montréal, l'organisme Altergo a décerné le prix Innovation Guy Langlois à Adama pour souligner le fait que l'association est à l'écoute des besoins des personnes ayant une limitation fonctionnelle et qu'elle est passée à l'action. Mohamed Jelassi constate le long chemin parcouru par Adama depuis 5 ans. Nous sommes passés de moins de 10 personnes à l'exécutif à une association de plus de 1000 membres dans la grande région de Montréal. Et il constate la chance qu'il a de côtoyer des personnes inspirantes et des parents exceptionnels. Je veux qu'on puisse tous prendre notre place dans la société malgré nos différences, car la différence est cette belle chose qu'on a tous en commun.
C'est magnifique, hein?
Alors, en bref, Mohamed Jelassi est né à Tunis, ville de plus d'un million d'habitants en Tunisie, un pays d'Afrique du Nord. Sa formation, baccalauréat en journalisme, des études en technologie de l'information, en information sportive de l'Institut de presse et des sciences de l'information à Tunis. Et comme reconnaissance, prix Innovation Guy Langlois de l'organisme Altergo, lauréat régional du prix du bénévolat en loisirs et en sport Dollard Morin et entraîneur du mois de septembre 2016, selon Sport Québec. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Mmh.
Alors, on le félicite et on remercie Régent Bourdeau de la presse de nous l'avoir fait connaître. Monique.
Alors maintenant, je vous parle de sucre.
Oui.
C'est un article d'Yves Sciamma pour Science et Vie de juillet 2017 qui s'intitule « Sucre, la grande intox
mm-hmm. ».
Point d'interrogation.
Oui.
Oui, j'espère.
Alors verra-t-on un jour, comme pour les cigarettes, des paquets de bonbons portant l'avertissement « Sucré tue » en lettres capitales? Faudra-t-il un peut montrer ses papiers pour prouver sa majorité avant d'acheter du soda? Volontairement provocatrice, ces questions reflètent l'état d'esprit de certains scientifiques de haut rang qui fulminent de voir le sucre considéré par beaucoup comme un petit plaisir sans conséquence, alors que voient s'accumuler les données sur sa nocivité, sa toxicité. Il fulmine d'autant plus qu'il existe de nombreux parallèles entre l'industrie du sucre et celle du tabac dans leur stratégie d'écran de fumée et de minimisation de la nocivité de leurs produits. Commençons par un premier constat. L'humanité est malade de ce qu'elle mange. Dans un rapport de mai 2015, l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, rappelait que l'obésité a doublé en 35 ans dans le monde, touchant désormais 11 % des hommes et 15 % des femmes adultes, soit plus d'un demi-milliard d'humains. Dans la même période, le diabète a presque doublé également.
Oui, ça c'est vraiment alarmant.
Voilà, il concerne 8,5% de personnes sur Terre. Aux États-Unis, 75% des dépenses de santé sont englouties dans les maladies métaboliques. Ce constat ne fait pas débat, pas plus que l'idée qu'il faut réduire notre consommation de sucre, toutes formes confondues, lorsqu'il est ajouté à nos aliments. Tout le monde est d'accord.
Ben oui.
L'objet de la controverse, c'est de déterminer si ce sucre ajouté est un simple aliment calorique, comme il en existe beaucoup d'autres, ou s'il s'agit d'un produit intrinsèquement toxique, capable de détériorer la santé même de ceux qui ne sont pas en excès calorique. Comme pour le tabac, comme je le disais en introduction, les enjeux économiques sont colossaux. Chaque année, 170 millions de tonnes de sucre sont vendues dans le monde. Mais ce n'est pas tout. Les sucres sous leurs diverses formes sont omniprésents dans les produits de l'industrie mondiale de l'alimentation, dont les recettes en 2016 approchaient les 400 milliards de dollars.
Et il y a beaucoup d'argent en jeu.
Il y a beaucoup d'argent en jeu. Omniprésents, car indispensables, non seulement pour leur goût, mais pour leur effet sur la texture et la conservation des aliments. Donc, deux théories s'affrontent. La première, défendue par l'industrie, reste très majoritaire, même chez les nutritionnistes. C'est une vision dite calorie-centrique, qui consiste à dire que le fondement des problèmes de santé actuels est que nous engrangeons plus de calories que nous n'en dépensons. Dans cette optique, une calorie est une calorie. Elles se valent donc toutes, et l'important est de ne pas en absorber trop. Dès lors, le sucre n'apparaît coupable qu'en tant que source de calories. Et il existe un remède, l'exercice physique, voilà. Puisqu'il est théoriquement toujours possible de brûler des calories en faisant du sport. Si l'on veut sucrer plus, il suffirait donc de bouger plus. Cette vision a été largement inculquée aux parents. En dehors des caries, la plupart n'ont pas connaissance des nombreux dangers intrinsèques que comporterait le sucre. Donc, la première attaque de poids contre la théorie calorie-centrique a eu lieu il y a 5 ans, dans un retentissant article publié dans la revue Nature, titré « La vérité toxique sur le sucre », le pédiatre et endocrinologue Robert Lustig et deux de ses collègues de l'Université de Californie réservaient un statut particulier au sucre ajouté et appelaient à le réglementer aussi sévèrement que l'alcool ou le tabac, en particulier vis-à-vis des enfants.
Évidemment, hein? Ben oui.
Marie, tu es très soucieuse de ça. Oui. Du point de vue du corps, une calorie n'est pas une calorie, selon ces chercheurs. Le corps ne brûle pas, mais métabolise.
Ah, ça c'est un changement de posture.
Nuance très importante. Alors, les partisans de la théorie selon laquelle le sucre serait en soi toxique ont à l'évidence marqué des points. Bien que l'OMS continue de prôner l'approche calorie-centrique, elle a récemment recommandé de réduire l'apport en sucre ajouté à moins de 50 grammes, soit 8 morceaux de sucre par jour. Un seuil qu'en France, plus de la moitié des enfants dépasse. Donc, on peut se poser des questions sur ce barème, oui. N'est-ce pas? Alors, du coup, en pratique, les tenants de la pratique calorie-centrique mettent plus facilement l'accent sur l'éducation et l'exercice, et aussi, bien sûr, le comportement, tandis que les tenants de la toxicité réclament des mesures énergiques de régulation, comme la taxation des sodas, que l'OMS préconise déjà dans un rapport où elle précise que leur prix devrait être augmenté d'au moins 20 %. L'organisation suggère du reste une taxation proportionnelle au contenu en sucre pour inciter l'industrie à en diminuer la quantité et propose d'utiliser les recettes ainsi obtenues pour réduire le prix des aliments sains, les fruits, les légumes. Mais Robert Lustig et ses collègues estiment qu'il faut aller plus loin. Il est le détenant de la toxicité, ne l'oublions pas. Interdire la vente de produits hyper sucrés, comme les sodas, les bonbons, les barres chocolatées, aux mineurs, par exemple, à l'instar du tabac. Interdire tout sucre ajouté dans les produits destinés aux enfants de moins de 2 ans. Interdire la publicité, surtout lorsqu'elle vise les mineurs. Mettre en place un étiquetage clairement dissuasif. Il y a 25 ans, on fumait dans tous les lieux publics et on trouvait ça tout à fait normal. Aujourd'hui, les manœuvres de l'industrie ont été dévoilées. Et c'est notre permissivité d'alors qui paraît folle. Vous verrez, avec le sucre, en fait, ils l'espèrent, ça devrait être pareil. Alors, attention au sucre, chers amis.
me revoici.
Oui, on a une émission encore.
Ben oui, c'est ça. 5 conseils que pour enrichir la lecture d'histoire auprès des enfants d'âge préscolaire. C'est un texte de Pascal Lefebvre qui a été publié sur le site parlonsapprentissage.com le 15 novembre. Aucune activité ne fait autant l'unanimité que la lecture d'histoire quant à la contribution au développement des compétences en littératie. La littératie, c'est tout ce qui touche le monde de l'écrit, de la lecture et de l'écriture. Et ce, donc, dès la petite enfance. Une méta-analyse effectuée, révèle que 8% de la croissance des habiletés langagières et de littératie des enfants est attribuable aux expériences de lecture d'histoire vécues avec les parents. De plus, de nombreux autres écrits scientifiques à ce sujet ont mis en lumière des principes afin de rendre cette activité encore plus profitable pour le développement des enfants. Ce biais propose donc 5 conseils éprouvés pour enrichir les activités de lecture d'histoire auprès des enfants de 3 à 5 ans avant leur apprentissage formel de la lecture et de l'écriture au primaire, donc avant qu'ils n'entrent à l'école. Le premier conseil, lisez l'histoire avant de la raconter afin de connaître le potentiel éducatif de l'album jeunesse. Pendant votre première lecture personnelle de l'album, repérez les occasions d'apprentissage en lien avec les habiletés qui prédisent le plus le succès en lecture et en écriture, selon le rapport du National Early Literacy Panel. Par exemple, portez une attention particulière aux lettres dans le titre, au vocabulaire plus rare, aux mots qui riment ou qui commencent par le même son, à la ponctuation qui indique des dialogues comme les tirets ou les guillemets, aux structures de récits répétitives ou encore aux éléments de l'histoire qui ne sont pas illustrés ou explicitement dits dans le texte, comme les émotions des personnages ou les raisons derrière les événements de l'histoire. Ces éléments fournissent des occasions uniques d'apprentissage pendant lesquelles l'adulte peut interrompre sa lecture et amorcer un échange verbal pour partager ses connaissances avec les enfants. Deuxième conseil, exploitez les livres de manière à promouvoir l'intérêt des enfants pour la littérature jeunesse. Une étude a démontré que l'on peut améliorer l'intérêt des enfants pour la lecture d'histoire en formant leurs parents à utiliser des stratégies de lecture. Par exemple, sélectionnez des livres qui font vivre des émotions avec des histoires qui font rire, qui font peur, qui comportent du suspense ou qui sont touchantes. Présentez la page couverture des livres ainsi que leur auteur et leur illustrateur en piquant la curiosité des enfants. Changez votre voix lorsqu'un personnage parle, variez votre intonation, faites des gestes et ajoutez des onomatopées pour faire passer l'émotion. Concluez votre lecture en parlant avec les enfants des moments forts de l'histoire, des parties qui vous ont particulièrement plu et de ce que l'auteur voulait communiquer. Conseil numéro 3, profitez de l'activité pour enrichir le vocabulaire des enfants. Dès que les enfants atteignent l'âge de 3 ans, lisez le texte mot à mot au lieu de le simplifier. L'exposition au registre plus soutenu des albums jeunesse est essentielle à l'apprentissage du niveau de langage nécessaire pour lire et écrire. Pour que l'apprentissage soit plus efficace, prenez le temps de définir les mots difficiles ou de donner un synonyme plus commun, de donner des exemples de leur utilisation dans d'autres contextes connus, de les mimer ou de les montrer dans les illustrations lorsque c'est possible. Vous pouvez aussi faire répéter ces mots à voix haute par les enfants. C'est Mme Proto tantôt qui parlait de du nombre de mots que les enfants en milieu défavorisé ont de moins que les autres. Alors, la lecture d'histoire contribue à pallier à ça. Quatrième conseil, pensez à voix haute pendant que vous racontez l'histoire. Interrompez votre histoire pour discuter des émotions, des pensées, des personnages. Parlez de la cause des événements qui se produisent dans l'histoire ou encore des différentes conséquences possibles d'un événement. Énumérez les différentes solutions possibles aux problèmes que rencontrent les personnages. Expliquez de quel personnage l'auteur parle lorsqu'il utilise des pronoms comme « il », « lui » ou « elle ». Toutes ces occasions vous permettent de parler d'éléments qui sont rarement mentionnés explicitement dans les histoires, mais qui sont déterminants pour bien les comprendre. Cinquième conseil et dernier conseil, montrez aux enfants comment vous vous y prenez pour lire un album jeunesse. Démontrez la façon de tenir un livre afin qu'on puisse le lire. Lorsque vous lisez le titre, expliquez comment il vous aide à prédire le thème de l'histoire. Montrez où se situe le texte, expliquez aux enfants sur quelle page et à quel endroit on commence à lire. Vous pouvez même suivre le texte avec votre doigt à mesure que vous lisez. N'hésitez pas à utiliser des termes comme mots, phrases ou paragraphes lorsque vous parlez du texte aux enfants. Parlez de la ponctuation, des lettres majuscules et minuscules. Ces connaissances peuvent être acquises par les enfants si on en parle explicitement pendant les lectures d'histoire. Voilà cinq conseils judicieux que vous pourrez utiliser. Ce que je fais régulièrement.
Oui, moi aussi, je pense. Alors, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de météo urbaine.
Ben oui, justement.
Aujourd'hui, le temps change. On se dit ça, qu'avec le temps, les choses vont changer, que ce sera différent, qu'on passera à autre chose. Puis, on met les pieds dans l'appartement d'un neveu qui écoute sa musique, qui nous regarde surpris quand on lui dit « Ah, c'est Pink Floyd, The Wall! » et qui nous rétorque candidement « Tu connais ça, ma tante? » Les temps changent. On se dit ça quand, en faisant du ménage de la garde-robe, on tombe sur un vêtement longtemps oublié qu'on a vu dernièrement faire la une d'une vitrine de boutique. Le temps change, c'est ce qu'on dit, mais au final, c'est la roue qui tourne et nous ramène en avant ou en arrière. On n'égratigne plus les vieux vinyles, on magasine à l'écran avec un clavier, on passe au cash sans sortir d'argent. Le temps change, peut-être. Tout n'est que perception.
Oh.
Alors, on a parlé du sucre.
Oui.
Je vais vous parler de caries.
Ben oui.
Alors, un lecteur d'une revue scientifique demande si les animaux ont des caries.
Oh, c'est intéressant ça.
Alors, on découvre parfois des caries chez des omnivores ou des herbivores, primates, rongeurs, chevaux. Carnivore, le chien peut être touché, mais pas le chat.
Ah bon?
Alors, la déminéralisation de la dent, causée par la prolifération de bactéries, reste rare chez l'animal. Aucun, en effet, ne cumule, comme l'être humain, les facteurs qui favorisent les caries. Nos molaires serrées et la surface irrégulière sont plus accueillantes pour les microbes que les dents pointues et espacées des carnivores.
En plus, ils ne boivent pas de jus.
Ils ne boivent pas de jus, c'est ça. Mais c'est sûr que leur... Ils ont une... C'est pauvre en sucre.
Une alimentation pauvre en sucre et des dents pointues.
Voilà.
Et Yvan, est-ce qu'on a le temps pour une petite?
Oui, tout à fait. Arc-en-ciel, ce sont les couleurs adoptées pour une piste cyclable de la ville d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. La Rainbow est située au pied du Mont Albert, près de l'Université Unitec. Elle a l'avantage d'être très visible, belle et agréable. Un véritable incitatif pour les cyclistes. Mmh. Alors, c'est en Nouvelle-Zélande, Marie.
Oui, en Nouvelle-Zélande. Moi, je vous dis la définition du mot écriture de Elena, 5 ans, c'est dessiner des mots et des phrases.
Oh.
Alors, on vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bonne semaine. Merci à nos collaborateurs, Yvan, Monique et Mathieu. Et voilà.
Au plaisir.
Au plaisir.
Au revoir.
Mon enfant nu sur les galets, le vent dans tes cheveux défaits, comme un printemps sur mon trajet, un diamant tombé d'un coffret, seule la lumière pourrait défaire nos repères secrets. Où mes doigts pris sur tes poignets. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Passe, l'amour est partout où tu regardes. Dans les moindres recoins de l'espace. Dans le moindre rêve où tu t'attardes. L'amour comme s'il en pleuvait. Nu sur les galets. Le ciel prétend qu'il te connaît. Il est si beau, c'est sûrement vrai. Lui qui ne s'approche jamais. Je l'ai vu pris dans tes filets. Le monde a tellement de regrets. Tellement de choses qu'on promet. Une seule pour laquelle je suis fait. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Mais quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. Dans les moindres recoin de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes, l'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets. Les yeux dans les mêmes reflets. Pour cette vie et celle d'après, tu seras mon unique projet. Je manierai poser tes portraits à tous les plafonds de tous les palais. Tous les murs que je trouverai. Et juste en dessous j'écrirai. Que seule la lumière pourrait. Et mes doigts pris sur tes poignets. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai.
C'était Francis Cabrel et sa chanson « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai ».
Actualité internationale, Thanksgiving à la plage. Le sud-ouest du pays appréhende des records de chaleur. Los Angeles, une vague de chaleur inhabituelle pour la saison, s'est abattue sur le sud-ouest des États-Unis et les météorologues s'attendaient à ce que le mercure y dépasse des records parfois centenaires pour le week-end de Thanksgiving célébré aujourd'hui. Au moment où les Américains s'apprêtent à déguster le repas traditionnel de l'Action de grâce, une très hivernale dinde accompagnée de farces, de purée et de sauce, on prévoyait que le thermomètre monterait jusqu'à 33 degrés Celsius hier et à 32 degrés Celsius aujourd'hui près de Los Angeles et à 31 degrés à Phoenix en Arizona, environ 10 degrés au-dessus des normales saisonnières. Les températures devraient atteindre des records mercredi pour Thanksgiving aujourd'hui à travers le sud-ouest de la Californie. Des pics historiques de chaleur 36 degrés ont déjà été constatés à Oxnard et à Camarillo, en banlieue de Los Angeles, a tweeté le Service national de météorologie. D'après Joe Sirard, météorologue du Service national de météorologie, cité par Los Angeles Times, le record de chaleur pour l'action de grâce américaine fête célébrée le 4e jeudi de novembre avait été établi à 32 degrés Celsius le 26 novembre 1903. En Arizona, si le mercure monte jusqu'à 31 degrés, ce sera la date la plus tardive de l'année où on n'aura jamais enregistré une température si élevée, poursuit le Service national de météo. Près de Las Vegas également, le thermomètre devrait s'envoler à des pics inégalés pour une fin novembre. À San Diego, Los Angeles et Santa Barbara, beaucoup prévoyaient d'aller à la plage se faire dorer après avoir dévoré de la dinde rôtie. Le premier ministre libanais Saad Hariri a annoncé hier qu'il suspendait sa démission surprise en attendant des consultations sur des dossiers épineux, dont l'implication dans des conflits régionaux du puissant Hezbollah pro-iranien, partenaire de son gouvernement. Le premier ministre a assisté dans la matinée au défilé militaire de la fête de l'indépendance, 74 ans après la fin du mandat français au Liban. Le retour d'Hariri devrait décrisper l'atmosphère au Liban. Dans ses interventions à Beyrouth, M. Hariri n'a pas évoqué les accusations du président Michel Aoun selon lesquelles il avait été retenu en otage en Arabie saoudite, des accusations qu'il avait niées durant son séjour à Riyad. Hier après-midi, quelques milliers de partisans de M. Hariri se sont retrouvés devant son domicile à Beyrouth, arborant le drapeau bleu de son parti. Aujourd'hui, nous sommes les témoins du début d'une nouvelle démocratie, dit Emmerson Mnangagwa, nouvel homme fort du Zimbabwe qui s'apprête à prendre la délicate succession de Robert Mugabe. Âgé de 75 ans, le « crocodile », ainsi qu'il est surnommé pour son caractère inflexible, tient sa revanche après avoir été sèchement remercié par l'ancien président. La France a qualifié hier de crime contre l'humanité la vente de migrants africains comme esclaves en Libye et a demandé une réunion expresse du Conseil de sécurité des Nations unies sur ce sujet. Cette pratique, exposée dans un récent reportage de la chaîne américaine CNN, relève de la traite des êtres humains. C'est un crime contre l'humanité, a déclaré le président Emmanuel Macron à l'issue d'une rencontre avec le président guinéen Alpha Condé. « Ce qui s'est passé en Libye est scandaleux », a jugé ce dernier, qui est aussi président en exercice de l'Union africaine. Et en terminant, la Cour constitutionnelle italienne a validé hier une loi votée l'été dernier rendant 10 vaccins obligatoires pour l'entrée à l'école, rejetant un recours formé par la région Vénétie. Les vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite ou encore la rougeole sont obligatoires pour inscrire un enfant de moins de 6 ans à la garderie ou à la maternelle. De 6 à 16 ans, les parents des enfants non vaccinés risquent des amendes de 150 à 750 $. Pour la Vénétie, cela constitue une atteinte aux droits individuels à la santé. La région, depuis longtemps agitée par des poussées autonomistes, applique depuis 10 ans un modèle fondé sur la liberté de choix après une information fournie aux familles. Mais les juges constitutionnels ont estimé que l'obligation était légitime, les mesures préconisées par le gouvernement relevant du législateur national. Actualité culturelle. Mathieu, vous avez une information à nous donner parce qu'en début d'émission, aux éphémérides, vous parliez d'Amélie Nothomb en la citant.
Oui, en fait, on a lu 16 de ses livres, mais les Catinillas ne font pas... Oui, exact, oui. Ne fait pas partie de cette liste-là.
Bon,
par contre, vous pouvez faire la demande à la BNQ.
Oui.
Et voilà.
Comment on fait?
On fait une demande directe.
À la Grande Bibliothèque?
Oui, à la Grande Bibliothèque. Ou SQLA. Puis ça va faire plaisir.
Merci beaucoup. Actualité culturelle, exclusivité dans la presse, 375e anniversaire de Montréal, un grand spectacle avec Garou pour boucler l'année. C'est un article de José Lapointe. Garou aime Montréal autant qu'il aime fêter le nouvel an. Il a donc naturellement accepté d'être le porte-parole des festivités du 31 décembre dans le Vieux-Montréal qui viendront clore l'année du 375e anniversaire de la ville. Garou est né à Sherbrooke, mais est un fier Montréalais d'adoption. Ça fait 16 ans que je vis au même endroit. Et contrairement à ce que les gens pensent, je ne me suis jamais installé à Paris. Celui qui espère être un bon ambassadeur du Québec dans le monde a donc Montréal bien au chaud dans son cœur. J'y ai des établissements aussi, et j'en ai organisé des parties du jour de l'an. La journée du 31 décembre sera donc remplie d'activités. Le chanteur qui invite les gens à venir le plus tôt possible dans le Vieux-Montréal promet d'être partout, en motoneige ou en ski de fond. Je vais présenter le grand spectacle qui commence à 21h, et ça se peut que je pousse aussi une petite chanson à répondre, dit Garou. Le chanteur qu'on pourra voir dans le rôle de coach à l'émission La Voix dès janvier adore le trad. C'est avec ça que j'ai appris à faire de la musique quand j'étais tout petit. Le 31 décembre est, selon lui, l'occasion idéale pour réunir les Montréalais de tous les âges et de toutes les origines. Montréal est une ville joyeuse, une ville de partage. Et j'ai envie que tout le monde partage le même gros rigodon, dit Garou, qui aimerait que tout le monde apporte ses cuillères. Les cuillères vont nourrir le cœur des gens. Dès midi, donc, les Montréalais sont conviés à un banquet populaire au marché Bon Secours et dans la rue Saint-Paul. Il y aura de la musique traditionnelle tout l'après-midi, avec entre autres Yves Lambert. Un peu plus tard, au quai Jacques-Cartier, DJ Sabrina Sabotage sera aux commandes pour installer une ambiance festive jusqu'au party du Nouvel An de Montréal en fête. Organisé depuis 5 ans, ce grand spectacle mettra en vedette Daniel Bélanger, Vincent Vallière, Laurence Nerbonne, Pierre Quenders, DJ KXO, Les Deux Luxe et, grosse surprise, Mes Aïeux. Ce sera leur grand retour après 5 ans, précise Garou, ça va être tout un événement. Le tout se terminera avec un grand feu d'artifice avec 8 points de lancement et une illumination du pont Jacques-Cartier sur une trame musicale toute montréalaise. La rencontre des feux et du pont illuminé, ça devrait être magique. Je pense que Times Square va être jaloux, dit Garou. Alors on a une photo, Yves Lambert et Garou, qui participeront aux festivités du Nouvel An dans le Vieux-Montréal devant la tour de l'horloge où aura lieu le décompte de minuit. L'homme de théâtre Robert Lepage présentera en primeur cet été dans le cadre du Festival de jazz son nouveau spectacle « Slave, odyssée théâtrale » inspiré des chants d'esclaves afro-américains. On explique que c'est Betty Bonifaci qui a influencé ce projet avec ses albums « Chants d'esclaves »,« Chants d'espoir » et « Lomax ». Sur scène, la chanteuse interprétera avec 6 choristes les différentes familles de chants qui serviront de trame narrative pour raconter l'histoire des Noirs aux États-Unis. Le metteur en scène de Québec et sa compagnie Ex Machina illustreront le tout avec des projections et une scénographie composée de rails déployés au sol comme dans les airs. Le spectacle sera présenté au TNM du 26 au 30 juin et les billets seront en vente dès demain midi ou aujourd'hui si vous êtes abonné à Infolettre. Le célèbre baryton russe Dmitri Vorostovsky a succombé hier à 55 ans près de Londres à une tumeur au cerveau. Né en 1962 en Sibérie, le baryton s'était imposé parmi les plus grands en remportant le prestigieux prix BBC Cardiff Singer of the World. Il était un habitué des plus grandes scènes du monde, du Met à la Scala de Milan, en passant par le Royal Opera de Londres ou encore le Staatsoper de Vienne. Le Kremlin a réagi à sa mort, affirmant que Vladimir Poutine était un admirateur de son travail et qu'il s'agissait d'une très lourde perte. Dans Mother, un film violemment rejeté par le public, mais qui a ses ardents défenseurs, le cinéaste Darren Aronofsky, Black Swan, réalisateur de ce film, a mis toutes ses obsessions, notamment celles liées à la création, qui, dans ses films, passent bien avant les sentiments. Personne ne sait si cette approche a un lien direct avec la vie personnelle du cinéaste de 48 ans, mais toujours est-il que le magazine People a annoncé hier la rupture du couple qu'il formait depuis un an avec Jennifer Lawrence, de 21 ans sa cadette, aussi tête d'affiche de son plus récent film. La réalité aurait-elle rejoint la fiction? C'est la question que pose Marc-André Lucier dans la presse. Au régional, Denis Graton dans le droit, 6 cm de trop. Prendre l'avion est devenu plutôt compliqué depuis les attentats du 11 septembre 2001. On nous a d'abord interdit d'être en possession d'un briquet, puis on nous a obligés à retirer nos chaussures avant de monter à bord, juste au cas où l'histoire se répétait et qu'un passager dissimulerait une bombe dans ses godasses. Pas question d'être en possession d'une bouteille d'eau non plus, ni de poudre à bébé. Puis d'autres objets interdits à bord des avions se sont ajoutés à la liste d'année en année. Si bien qu'on a parfois l'impression qu'il faudra bientôt prendre l'avion à poil. Mais toutes ces mesures ont été mises en place pour assurer notre sécurité, on le sait. Alors on se déchausse, on retire notre ceinture, on vide nos poches, on ouvre et on allume notre portable, on tend les bras pour se faire scanner de la tête aux pieds, on ronge notre frein, on bougonne et on arrive à destination sain et sauf. Mais on apprenait récemment que Transport Canada autorisera à compter du 27 novembre le port du kirpan à bord des vols intérieurs et internationaux. Seront aussi autorisées les petites lames de couteau de 6 cm ou moins, ainsi que des petits ciseaux et couteaux suisses. Une bouteille d'eau dans un avion, c'est non. De la poudre pour bébé ou des sels de bain, pas question non plus. Mais un couteau muni d'une lame de 6 cm, bienvenue à bord et merci d'avoir choisi Air Canada. C'est d'une incohérence incompréhensible. Et petite question, comme ça en passant, combien mesuraient les lames des couteaux rétractables utilisés par les terroristes qui ont détourné 4 avions le 11 septembre 2001 et tué 2977 personnes? A-t-on déjà oublié? Semble-t-il. Certains parlementaires et observateurs ont affirmé que cette nouvelle mesure a été mise en place par le fédéral pour accommoder certains groupes religieux, notamment les Sikhs pour qui le kirpan, ce couteau cérémonial, est l'un des 5 symboles religieux qu'ils doivent avoir sur eux en tout temps. Mais le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, rejette cette affirmation. Selon lui, il s'agit d'un accommodement pour tous les passagers. Voici ce qu'il a déclaré il y a quelques jours lors d'une mêlée de presse. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient avoir un petit couteau ou une lame pour se faire les ongles ou pour différentes raisons, et c'est accepté partout dans le monde à l'exception des États-Unis. Ça ne représente pas une menace pour la sécurité. Eh bien, si l'astronaute Garneau le dit, et c'est vrai que de me limer les ongles à bord d'un avion bondé m'a toujours tenté. C'est d'ailleurs la première chose qui me vient en tête lorsque je prends place dans un avion. Maudit que j'aimerais pouvoir me faire les ongles. Et dorénavant, je pourrai. Et je pourrai aussi me munir d'un petit couteau de poche et gosser du bois pour passer le temps durant le vol. Bien que mon morceau de bois serait sûrement confisqué à la sécurité parce qu'on craindrait que je me gosse un couteau. Mais blague à part, cette décision de Transport Canada ne tient pas la route. Un couteau suisse ou un petit kirpan muni d'une lame de 6 cm représente, à mon avis, une arme potentielle et un danger réel à bord d'un avion. Et tout ce débat n'est pas une question de religion ou d'accommodement raisonnable, mais pas du tout. C'est une simple question de sécurité pour tous, pour toute religion, confession, race et langue parlée confondue. On n'apporte pas un couteau à bord d'un avion, point. Le gros bon sens le dicte. La Terre appelle Marc Garneau. Anne-Marie Gravel dans Le Quotidien et Grégory Charles réfutent les allégations de Marie-Pierre Simard-Gagnon. Je vous en ai lu, j'ai lu l'article qui concernait cette histoire. Suite, donc, Grégory Charles réfute catégoriquement les allégations de Marie-Pierre Simard. Il assure que la violoncelliste de la région a été payée dûment pour l'ensemble de ses engagements, tout comme ses jeunes collègues musiciens qui ont participé aux différentes activités liées à Virtuose. L'absence de Marie-Pierre Simard-Gagnon lors du concert Virtuose tenu dimanche dernier au Théâtre Banque Nationale de Chicoutimi n'est pas passée inaperçue. La violoncelliste a réagi dans nos pages mercredi en affirmant qu'elle a été tassée parce qu'elle a posé des questions sur ses conditions de travail. C'est parfaitement absurde, d'abord parce qu'elle n'a jamais été expulsée de la tournée, et deuxièmement, parce qu'il n'y avait pas de tournée de laquelle elle pouvait être expulsée, a affirmé Grégory Charles, dans le cadre d'un entretien téléphonique avec Le Quotidien mercredi après-midi. Ce n'est pas une vendetta. Ce n'est pas parce qu'elle pose des questions. Elle pose des questions depuis la première journée, assure celui qui travaille avec des jeunes depuis 35 ans. Marie-Pierre Simard-Gagnon était absente à Chicoutimi pour des raisons artistiques. J'ai des jeunes qui viennent de Montréal et ils n'y jouent pas nécessairement. Même chose à Sherbrooke. En début de saison, on fournit les dates de spectacle et les jeunes signalent à quel moment ils sont disponibles. Ensuite, au fur et à mesure qu'on avance, on retient la participation d'un jeune ou d'un autre. On ne signe pas d'engagement. Dans ce cas-ci, comme dans les derniers mois, on a surtout fait des spectacles avec un nouveau répertoire. C'était plus simple de faire le spectacle avec des jeunes qui ont participé à d'autres représentations dernièrement, explique-t-il. On a des « kids » qui n'ont pas participé encore à notre tournée, affirme celui qui souligne que Radio-Canada n'a jamais participé au spectacle. Quant à la rémunération des artistes, Grégory Charles assure que tout est fait selon les règles établies. Tout se fait dans les règles de l'art, que ce soit les cachets pour les répétitions, les concerts et les enregistrements. Les jeunes sont traités de la même façon qu'un musicien avec 50 ans de carrière. Il affirme aussi que la violoncelliste n'a jamais été pénalisée parce qu'elle vient d'une région. Chaque fois qu'on a convoqué Marie-Pierre, il y avait le transport, le kilométrage et l'hébergement à prendre en compte. Mais on ne s'est pas empêché parce qu'on voulait que tout le monde vive le plus possible les expériences pédagogiques. Dans les deux dernières années, on a dû payer entre 3 000 et 4 000 $ de kilométrage parce qu'elle vient du Saguenay. Les productions Grégory Inc. ont fourni au quotidien l'ensemble des engagements offerts à Marie-Pierre Simard-Gagnon, ainsi que les cachets qui lui ont été versés, incluant les montants pour les répétitions et ses frais de déplacement. Au total, ce sont 6 537 $ et 88 cents qui ont été payés à la violoncelliste pour ses différents engagements depuis juin 2016. Ce montant inclut le cachet d'artiste comprenant les répétitions liées aux différents concerts et enregistrements, ainsi que les frais de déplacement qui lui ont été versés. La violoncelliste a notamment reçu 574 $ pour sa participation au thème musical de l'émission Les Héros du samedi, ce qui a nécessité une heure de répétition. Les productions Grégory soulignent que les répétitions de 8 ou 10 heures dont parle la violoncelliste sont liées à l'enregistrement d'albums. Les ententes sont alors différentes, mais les productions assurent que les artistes de virtuose ont été payés au même tarif que tout autre musicien professionnel. Merci d'avoir été à l'écoute de l'émission Les Voix de service quotidien. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une agréable journée. Merci Mathieu Tessier au choix musical et à la mise en onde. Et je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour les paractualités. Ou sinon, à bientôt puisque je prends quelques jours de congé.